C'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue ici. J'espère que vous êtes tous en train d'écouter l'interprétation, si besoin, afin que la délégation marocaine, je crois qu'elle est prête, on va attendre juste une seconde. D'accord, ça va? Alors, j'aimerais souhaiter la bienvenue à vous tous. Merci beaucoup pour votre présence ici ce matin.
Tenho o microfone na frente. Aquele senhor tem o microfone. Vai, está ali. Penso que há um problema naquele tradutor. Já está. Já está? Tudo? Pronto. Muito obrigada a todos.
Repito. Merci, merci. Alors, bonjour. Je me réjouis de, en tant que présidente de la Commission de l'économie, des affaires financières et éducation et des affaires sociales pour l'Union pour le monde de la Méditerranée, vous accueillir. Et je reconnais que pour vous, il est assez difficile de vous rendre ici en ce moment et je vous en remercie. Voici un enjeu. Nous aimerions, avant la séance plénière qui aura lieu le mois de février à Strasbourg, qu'il y ait une réunion maintenant, avant. Vous êtes tous les bienvenus et je voudrais suggérer que tout d'abord, si vous êtes d'accord, avant l'adoption de l'agenda de l'ordre du jour, j'aimerais remercier ici deux personnes qui ne sont pas membres de l'Assemblée parlementaire, qui sont invitées, sont ici présentes. Madame Alexandra Quintanilla, qui est la présidente de l'éducation et de la science du Parlement portugais. Voilà quelqu'un que au Portugal est bien connu dans le domaine de la science et qui ne pourra pas être ici présente pendant toute cette séance, mais qui aura la possibilité de nous parler. Puis, Monsieur Paulo Novaes, qui est professeur à l'Université de Minho, au nord du Portugal, et qui est le président de l'Association d'intelligence artificielle au Portugal, et qui est ici présent, et qui va pouvoir discuter plusieurs aspects sur les démarches dans le domaine et qui ont trait à la coopération, qui est un sujet tout particulier pour nous et qui a des reflets sur l'éducation. Je passe la parole tout d'abord à mon collègue Quintanilla parce que après on n'aura plus de temps pour le débat. Madame la Présidente, merci. Je vous remercie l'invitation que vous m'avez adressée d'être ici aujourd'hui. Je travaille depuis longtemps, 25 ans de ma vie, j'ai vécu au Mozambique, en Afrique et puis en Afrique du Sud, puis en Californie et les 25 années suivantes et les dernières 25 ans au Portugal. J'ai commencé par la physique, puis la physiologie et la biochimie, et puis plus tard, je suis passée, étant donné l'écologie et le stress, à la sociologie. Et c'est intéressant de voir une région comme la Méditerranée pour débattre ici ces aspects. Et pour moi, un forum qui me plaît tout particulièrement. Et c'est pour cela que j'espère bien que cette réunion pourra aboutir à de très bons résultats. Pour ce qui est également de nouvelles collaborations pour l'avenir. Notre avenir a comme base la richesse des compétences de nos citoyens associées à la connaissance, à la façon comme la connaissance peut être au service pas seulement la richesse économique, mais également la richesse sociale et culturelle, et d'où la possibilité de pouvoir travailler ensemble et poursuivre ce travail pour renforcer ces liens d'interaction parmi les différents pays de la Méditerranée est une démarche à louer. Et je voudrais ajouter, même si je peux pas être ici présent pendant toute la réunion, puisqu'il faut que je parte bientôt, je vous remercie pour l'invitation qui m'a été faite et nous attendons à très bons résultats suite au dialogue dans le domaine de l'interdisciplinarité. Les obstacles plus graves pour notre planète découlent le manque de dialogue entre les différentes connaissances. Ceci n'est pas facile étant donné que chacun connaît son langage spécifique, mais le dialogue est toujours possible et je voudrais à nouveau vous remercier l'invitation qui m'a été faite et vous souhaitez à vous tous et à notre présidente un très bon résultat de notre réunion, cette séance, et je serai ici au moins au début. Merci. Je voudrais maintenant dire que nous avons ici présent les conseillers de l'ambassade d'Israël, que je n'ai pas pu saluer avant, et de l'ambassade de Turquie, Madame Edem Turquie. Et j'aimerais remercier les interprètes qui interprètent pour nous ici, dans les cabines. Tout d'abord, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a quelque chose contre? Non, si ce n'est pas le cas, nous adoptons l'ordre du jour, donc le premier point, et nous passons tout de suite au point 2. Les informations. La première information, la prochaine séance plénière aura lieu le 14 février à Strasbourg. Les travaux auront lieu le 13 et le 14 février. Le 13 après-midi, il y aura le sommet de la cimière, pardon, des présidents. Et le 14, la séance plénière. Et puis le 14, le bureau à 10 heures du matin. Et puis la séance plénière l'après-midi du 14 février. Il n'y aura pas la matinée de la séance plénière, les réunions des commissions comme c'est l'habitude. ceci selon l'information qui nous a été donnée par le Parlement européen. Et, étant donné qu'il y a une séance plénière du Parlement à Strasbourg ce même jour-là, donc pendant ces deux journées, il n'y aura pas les réunions des commissions. Voici aussi une raison pour laquelle j'ai dû fixer cette réunion pour le mois de février, étant donné que c'était prévu pour janvier, mais il nous faut toujours nous réunir avant l'Assemblée parlementaire. Il faut que la réunion se découle pour le débat en espace ouvert. Et puis, j'ai reçu déjà aujourd'hui même des propositions de textes pour les présenter comme des recommandations. Nous verrons après notre séance comment établir un texte qu'on ne pourra pas le terminer ici aujourd'hui, mais un texte qui sera par la suite distribué, circulé, afin qu'il soit présenté aux réunions de bureau le 14 février. Je voudrais dire que la place ici à ma droite est encore vide, mais notre vice-présidente de Tunisie va bientôt arriver. Elle n'est pas encore ici parmi nous, étant donné qu'il y a sûrement le problème de circulation dans Lisbonne, dans la ville de Lisbonne. Maintenant, le plan d'activité pour 2018-2019, le plan d'activité que je vous ai distribué, où il y a comme des sujets prioritaires le développement durable de la région de la Méditerranée et sous cet angle, et comme selon la quatrième conférence interministérielle de l'APM sur le renforcement du rôle des femmes dans la société, qu'il y a eu lieu le décembre au Caire, et la conférence interministérielle sur la coopération méditerranéenne par la recherche qui a eu lieu déjà en mai 2017. Ce que nous proposons de faire, c'est justement développer des activités qui ont deux piliers. Tout d'abord, l'économie et les nouveaux postes de travail à créer. Ceci a été fait de façon indirecte jusqu'à maintenant. C'est pour cela qu'il a été inclus dans l'ordre du jour. Et puis l'éducation, qui est un sujet dont nous nous occupons. Et puis, pour ce qui est des plans d'activité, il y a quelques programmes de l'Union pour la Méditerranée, notamment le PIM, le Partnership for Research in the Mediterranean Area, en anglais, et le programme de l'éducation universitaire et le programme OMER. Donc, notre objectif est tout au long de cette réunion, avoir la participation de ces projets où nous en. Mais ceci n'est pas possible pour le moment. Ce que nous avons prévu pour 2018-2019, ce sont les réunions en décembre et janvier, celle-ci maintenant en décembre, puis une réunion lors de la séance plénière qui n'aura pas lieu. Étant donné que ceci n'est pas possible pour nous, et puis des visites à des projets, des initiatives qui n'ont pas encore, n'ont pas encore des dates fixes. Voici les informations que j'avais pour vous donner. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Monsieur le député de Maroc, Monsieur Mustapha, vous avez la parole. Le micro, s'il vous plaît. Le micro de l'orateur n'est pas branché. On n'a pas de son dans les cabines. On n'a pas de son. Le micro, s'il vous plaît. Merci. Merci, merci. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais remercier également l'État portugais et le Parlement portugais pour la réception qui nous est faite, Madame la Présidente. J'ai quelques commentaires pour ce qui est les recommandations. Nous référons à ces recommandations qu'il faut ajouter. Et puis, un autre aspect dont je voudrais également vous parler, dans ce programme en arabe, il y avait une erreur ici. En arabe, on ne l'écrit pas comme c'est écrit ici. Donc, il faut faire attention lorsqu'on traduit ces paroles vers la langue arabe, car il y a des petites erreurs, mais ceci est important pour ce qui est la langue. Et bien aussi pour ce qui est le plan du comité, le comité des affaires économiques, financières, sociales et éducation. Nous suggérons qu'on puisse avoir un équilibre parmi ces différents sujets. Ceci veut dire un pour les affaires économiques, financières, un autre social et un autre pour l'éducation. Pour ne pas avoir une hiérarchie au point de vue de l'importance, pour ne pas dire que l'économique est le plus fort, le plus important. Pour ce qui est des communications également, il y avait un problème pour ce qui est la santé dans la région, et d'où le financement pour ceci, pour la santé, est important au point de vue global. Je discutais ceci avec mon collègue. Au point de vue de l'emploi et le chômage, ceci est important chez nous, dans nos sociétés. Nous devons inclure ces sujets dans l'agenda 2019, l'emploi et le chômage. Merci. je aurais dû faire référence, je ne l'ai pas fait, qu'il y avait un échange de courriers, d'emails et des suggestions de la part des collègues du Maroc. Et ceci à trois niveaux. Je répète, la première, la correction le procès verbal qui avait été déjà corrigé. Il y avait, au point de vue des présences, quelques lacunes, et comme vous avez bien compris, cette lacune était due au fait qu'il s'agissait d'une séance plénière où il y avait les inscriptions, et puis tout au long des interventions, ceci n'était pas en coïncidence. Donc, le procès verbal que nous avons établi, on faisait mention déjà. Et puis, une information que l'arabe aurait été mal traduit et que nous avons retenu aujourd'hui par vous-même, et c'est pour cela que ceci n'a pas été distribué, parce que ceci sera inclus et distribué par la suite, ce document. Pour ce qui est la commission est en fait une commission avec qui s'occupe d'aide économique, financière, questions sociales et l'éducation. S'il y a une prédominance, ce serait l'éducation la plus importante. Nous référons à l'innovation, l'éducation, et tout au long des dernières réunions de l'EPM, il est dans ce sens. Pour ce qui est l'emploi, il y avait cette situation de l'emploi chez les jeunes, mais comme j'ai pu dire ou écrire dans nos emails que nous avons échangés, il y avait aussi, ou il y a des questions telles que la santé et l'emploi pour les prochaines réunions, mais en ce moment, il n'y a pas encore un plan. Merci pour les prochaines réunions. Mais merci d'avoir bien éclairci ceci et qui a été déjà accueilli. Je salue maintenant notre vice-présidente qui était coincée dans la circulation dans Lisbonne, dans la ville de Lisbonne.
Merci. Merci, Madame la Présidente, et merci à tous. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci aussi aux membres. Je suis arrivée en retard. Ça a été vraiment chaotique. Encore une fois, désolée pour mon retard. Je suis contente d'être ici. Je suis contente aussi de vous retrouver, vous tous, et je suis avec attention les discussions. Je participerai un peu plus activement plus tard. Merci. Merci. Alors maintenant, nous allons passer Nous avons une inscription de l'Algérie.
Merci, au nom de Dieu, Madame la Présidente, nous vous remercions pour l'accueil qui nous est fait. Madame Vice-Présidente, Messieurs, Mesdames, je suis heureux de pouvoir accueillir mes nouveaux collègues d'Algérie lors de la réunion qui est au Caire. Les participants du comité, nous étions présents, la délégation d'Algérie. Nous avons pu participer au débat Et on a écrit que la délégation algérienne était là et également les membres de la délégation. Merci d'avoir tout inclus et nous vous prions de bien vouloir corriger ceci également. Madame la Présidente, c'est tout.
Alors, il se réfère à une incorrection, à une erreur en ce qui concerne les membres qui participent de la délégation algérienne. C'est bien cela?
Non, vous n'avez pas écrit que la délégation de l'Algérie était présente. Vous n'avez pas introduit par écrit qu'elle était présente. Donc, nous allons le corriger. Mais je me demande, je trouve assez particulier pourquoi ceci n'a pas été inclus, mais nous allons le corriger tout de suite, bien sûr. Merci. Merci. Et nous souhaitons que ceci soit corrigé. Pour vous parler maintenant aujourd'hui de l'éducation et de la paix dans la société, on n'a pas parlé de la digitalisation. Nous aimerions, étant donné la présence des experts dans ces domaines, vous parler des aspects qui ont trait à la société. Merci.
C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions à discuter, pour l'instant, nous passons au point qui est prévu. Un point qu'on a prévu, un échange de perspectives concernant le débat, concernant les implications de l'évolution technologique de la société, dans le monde en général, à divers niveaux, au niveau de l'éducation, au niveau également de l'innovation, mais aussi au niveau de l'avenir de nos travaux. Donc je vais maintenant passer la parole au professeur Paul Novaïch qui va nous en parler davantage. Et si vous pourriez venir vous asseoir ici de mon côté, j'aimerais le remercier parce que il vient de Cambridge, il est venu de Cambridge directement pour se joindre à nous. Pour faire donc sa présentation. Et je le remercie. Je ne vous ai pas encore dit, mais il y a du café ici, à l'arrière, il y a thé, café, des petits gâteaux, donc n'hésitez pas, servez-vous, parce que nous n'avons pas prévu de pause café en tant que tel, ou pas de façon formelle, donc sentez-vous à l'aise pour aller chercher du café si vous le désirez. Bonjour, je remercie cette opportunité qui m'est donnée. C'est un plaisir, c'est un honneur même d'être ici parmi vos excellences. Je vais parler. C'est rare que je fasse une présentation devant tant de personnes. C'est pour cela que je suis un petit peu nerveux, mais bon. Alors tout d'abord, je voudrais remercier Madame Margarida Mano pour cette invitation. C'est un privilège et un honneur de collaborer avec elle, ainsi qu'avec la Commission. Et bien sûr, être ici dans la maison de la démocratie portugaise, c'est toujours d'une grande satisfaction. Alors, je vais utiliser des symboles, des images pour exprimer des idées, parce que je pense que des textes, vous en avez suffisamment, vous lisez suffisamment. Je voulais vous montrer quatre films, quatre vidéos qu'on pourrait penser qui sont de la science-fiction, mais ça exprime quatre idées. Quatre idées. Alors, le premier, on voit un robot. C'était le film Metropolis. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, Metropolis. Par exemple, dans une vidéo de musique, il y avait un groupe de rock Queen qui ont montré ce robot dans leur vidéo. Donc, un robot est apparu. Ce n'était pas un robot intelligent, mais c'est un robot qui interagissait déjà avec les humains.
Mas eles têm ali no...
Permitem-me observação.
Alors, c'est un moment, un exemple parfait où on peut voir que la technologie n'est pas encore au point. La technologie devrait comprendre nos besoins, elle aurait dû deviner nos besoins et automatiquement toute cette technologie, si elle était vraiment intelligente, devrait répondre à nos besoins. Et voilà. Et aurait dû même lire les pensées de Madame la Présidente. Donc, alors, désolé pour cela. La première image intéressante, c'était la première fois dans l'histoire de la science-fiction qu'on a vu un robot, mais beaucoup de robots apparaissaient aussi dans la littérature, notamment de Isaac Asimov, et aussi la réalité virtuelle. Et tout cela est associé aux questions de la robotique aussi industrielle où on avait par exemple un assistant pour les tâches ménagères. Dans ce film, qui est un film qui stimule l'imagination, aujourd'hui je suis ici devant vous comme quelqu'un qui travaille dans ce domaine de la technologie en raison de ce film, entre autres. Et c'était une des premières fois où on a vu deux êtres intelligents, mais intelligents à leur manière. Et c'est important de réfléchir là-dessus parce que le premier robot, c'est un maître de cérémonie qui avait une forme plutôt humanoïde, qui parlait plusieurs langues et qui pouvait interagir avec nous. C'était un signe d'intelligence. C'est aussi un robot qui était très réactif dans des situations, si vous avez vu le film. Le robot a cette caractéristique, bouge comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est un robot qui était réactif, mais qui était quand même intelligent. Le deuxième ne communiquait pas, c'est un peu étrange, parce que c'est un langage qu'on ne comprenait pas. C'est un robot aussi proactif, qui prenait des décisions, mais qui ne comprenait pas nécessairement ce qui se passait. Par exemple, le système tout à l'heure aurait dû se réajuster automatiquement, parce qu'il se trouve dans l'angle de vision de quelqu'un. C'est pour ça que c'est vraiment extraordinaire. Je me souviens d'une scène du film où ce robot, c'est R2-D2, si vous vous souvenez, qui prend l'initiative lorsque Luke Skywalker lui dit « Saddam ». Et là, il réagit. Et en fait, ce sont toutes sortes d'actions qu'il entreprend pour sauver son maître. Ensuite, le film « Blade Runner ». C'était un film qui montrait un peu les cités du futur. C'était gris. À la fin, j'y reviendrai. C'était la première fois aussi dans la science-fiction où apparaît une société humaine, une société d'entités virtuelles, les replicants. Et ce sont des policiers. C'est la notion que la relation entre l'être humain et les entités virtuelles doivent être réglementées, il doit y avoir des normes. On doit préparer en quelque sorte cette relation, on doit aussi tenir compte des limites de chacun. Un autre exemple, c'est Ex Machina. Ex Machina, qui est très intéressant aussi, parce que c'est un film qui illustre l'un des plus grands défis posés par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'interaction. Comment interagir avec une forme d'intelligence sans que les êtres humains s'aperçoivent qu'il s'agit d'un autre être, c'est-à-dire d'un être qui n'est pas un être humain. Donc, ce sont des situations, nous, on interagit entre nous, mais parfois, en fait, le dilemme, c'était le dilemme que montrait le film, comment faire pour faire en sorte qu'on ne s'aperçoive pas qu'on interagit avec une intelligence artificielle. Mais ce dilemme a déjà été outrepassé. On a fait une expérience, on a mis des personnes à discuter avec d'autres entités sans savoir s'il s'agit d'êtres humains, et les personnes n'ont pas réussi à identifier qui était le robot ou le bot et qui était l'être humain. Un autre film intéressant qui utilise aussi ces entités, c'est un film qui s'appelle The Circle, que je ne recommande pas par ailleurs parce que ce n'est pas un film extraordinaire, mais qui montre aussi cette interaction et ses limites, les limites de l'interaction. On parle d'une entreprise dans ce film qui, profite de réseaux sociaux tels que Facebook ou autre, et la personne qui a... En fait, c'est pour illustrer que les réseaux sociaux nous connaissent mieux que même nos propres amis ou notre famille savent exactement nos préférences, nos faits et gestes. Bien sûr, dans tous vos pays, vous avez aussi cartons, des cartes fidélité dans des magasins, des boutiques, et à la fin du mois, vous recevez peut-être des promotions, des rabais, des réductions, etc. Parce que ces réductions, normalement, sont associées à vos profils de consommateurs. Pourquoi ? Parce que le système vous connaît très bien, le système sait, connaît vos besoins, vos habitudes d'achat, etc. Et dans ce film, le réseau social anticipe même vos achats. Parce que finalement, s'ils vous connaissent, eh bien, finalement, je peux même voter à ta place, prendre des décisions pour toi, pour le client. Et c'est ça le sujet de ce film. Et d'après mon humble opinion, je crois que c'est très dangereux. On doit mettre des limites à tout cela. Ce nouveau monde des réseaux sociaux a même le potentiel de substituer la démocratie. Le monde a beaucoup changé. Le monde a changé avec la 4e révolution industrielle. Nous interagissons, nous sommes tous connectés à Internet. Nous avons tous des usines aussi automatisées avec des robots. Cette interaction avec la machine existe de façon naturelle depuis déjà un moment. Le réseau que nous utilisons tous est omniprésente. Elle est ici présente à l'Assemblée de la République, dans le Parlement portugais, dans le métro, partout autour de nous, il y a le réseau Internet. Nous sommes tous interconnectés et nous pouvons ou non en profiter. Donc oui, notre société est en constant changement. Notre société a beaucoup changé. Si vous vous rendez compte, aujourd'hui, le réseau n'est pas comme avant. Nous tous, nous sommes directement interreliés. Ce scénario semblait futuriste, mais aujourd'hui, c'est arrivé. Nous avons tous des smartphones. Nous sommes tous en permanence connectés à Internet. Peut-être que vous savez même combien de pas vous avez fait aujourd'hui. Je sais combien Madame Margarita May a effectué de pas aujourd'hui. Toutes ces informations sont contenues sur Internet, et tout cela fait en sorte qu'à l'avenir, on n'aura plus de secrets. On sera un livre ouvert parce que le réseau aura l'information détaillée concernant nos moindres faits et gestes. Et ce sera cela notre réalité. Bien sûr, les smartphones pourront à l'avenir éventuellement avoir un chip, une puce. Nous ne savons pas l'évolution de la technologie. Et bien sûr, cela aussi a des opportunités, parce que c'est peut-être pour la première fois dans l'histoire de l'humanité que la quantité d'informations, la quantité de données qui est disponible est impossible à traiter. Nous n'avons pas la capacité ni les ressources humaines pour traiter toutes ces données. Il doit donc y avoir une technologie qui soit en mesure de valoriser ces données, de les traiter et de leur donner cette valeur ajoutée. Le processus d'intégration d'une nouvelle technologie est important. Par exemple, l'acier remonte déjà avant Jésus-Christ, mais le processus d'ingénierie associé au travail de l'acier, celui qui fait en sorte que ce métal puisse être utilisé dans la construction et d'autres applications, n'apparaît qu'au 19e siècle. Le coût de la main-d'œuvre pour traiter les données est impossible à payer, elle est même impossible à faire. Le fait que nous ayons des machines, il faut avoir des machines pour traiter ces informations. De toute façon, ce serait un travail impossible à faire par un être humain. Le travail, s'il fallait le faire par des êtres humains, de traiter toutes ces informations serait tout à fait impossible à faire et même impossible à payer. Donc, bienvenue dans ce nouveau monde. L'inventeur qui a donné ce terme intelligence artificielle, c'est un terme intéressant parce qu'en Allemagne, par exemple, nos collègues associent l'intelligence artificielle plutôt à l'intelligence créative, qui est une notion intéressante que j'aimerais peut-être discuter aussi plus tard. Mais ce qui est important ici, c'est que l'intelligence artificielle, c'est deux choses aujourd'hui. C'est une science, parce que tous les phénomènes, qui étudie tous les phénomènes liés à l'intelligence, mais c'est aussi lié à l'ingénierie, parce que cela réussit, l'intelligence artificielle réussit à résoudre des problèmes. Je vous rappelle que je vous parlais tout à l'heure de différents niveaux d'intelligence, et ces niveaux ne sont pas ces différents niveaux ne sont pas tous égaux. Il y a une intelligence basique, des fonctions exécutées simplement par une machine, et il y a d'autres niveaux supérieurs. Alors, aujourd'hui, de nos jours, nous sommes donc à cette époque des données. Nous avons maintenant la capacité de traiter ces données. Nous pouvons aussi stocker ces données dans ce nuage que nous connaissons. Et d'autres ouvertures intéressantes se proposent à nous avec l'informatique quantique. Et cela ouvre des possibilités que nous ne pouvons peut-être même pas imaginer aujourd'hui. Cela pourra permettre éventuellement de résoudre des problèmes. Peut-être même des problèmes liés à certains aspects sociétaux. On a parlé tout à l'heure de situations. On aimerait tous avoir un robot, un clone. Vous vous souvenez de Star Trek qui avait, dans ce film, il y avait un assistant digital en plus. Il se comportait toujours très bien, il était bien conçu. Eh bien, nous n'en sommes pas encore là, mais nous nous approchons de cela. Il y a ici un scientifique, Hiroshi, japonais, qui a développé un robot qui fait les voyages à sa place, parce que lui déteste voyager. Donc il envoie le robot pour faire son voyage. Et il envoie un texte qui serait peut-être le discours, la présentation qu'il désirait faire. Et savez-vous que fait le robot ? Le robot prend ses mots, puisqu'il connaît Ichiro, il imite les mouvements des bras de Ichiro, il imite son intonation, sa façon de parler, etc. Donc en fait, il représente, c'est comme un clone de Ichiro, c'est un robot qui fait son travail à l'étranger. Il suffirait d'adapter et d'ajouter à cette capacité du robot de parler une capacité de traduction, telle que Google Traducteur, etc. Dans certaines langues, 98% des traductions sont bonnes, sont justes, traduction automatique, 98%. Et d'ici peu, nous pourrons avoir éventuellement ces types d'assistants. multilingue. Les Japonais ne sont pas comme nous, comme les Méditerranéens. Nous parlons avec les gestes, nous gesticulons, nous sommes plus expressifs. Le robot s'adapte aussi. Alors, il y a un exemple classique qui était l'épidémie de grippe aux États-Unis. Google a réussi avec ses outils de prévoir exactement et de façon très juste l'évolution de cette grippe. La classification aussi par l'intelligence artificielle. Nous avons maintenant la capacité, l'intelligence artificielle a la capacité d'identifier des objets. J'aimerais rappeler aussi qu'il y a quelques mois, par exemple, dans un événement social, un concert, où il y avait plus de 50 000 personnes en Chine, les caméras qui étaient installées, les caméras de sécurité, ont réussi à identifier un individu parmi 50 000. Ça pourrait être aussi un outil utile pour les événements, comme on a vu, qui se sont déroulés ces derniers jours pour identifier quelqu'un. Les voitures autonomes ne sont pas encore une réalité, mais c'est juste une question de permis, d'autorisation. Les voitures existent, elles sont déjà sûres, mais il y a un problème. Vous devez nous aider à résoudre ce problème. C'est le problème de la responsabilité. Jusqu'à maintenant, c'est moi qui conduisais. C'était moi qui avais la responsabilité, qui devait prendre les décisions. C'est moi donc qui étais responsabilisée en cas d'accident. Maintenant, ces voitures autonomes, eh bien, vont peut-être aussi faire des erreurs, parce que tout ce qui a été conçu par l'homme, forcément, fera des erreurs. Alors, en cas d'accident, qui sera responsabilisé? La voiture, l'autobus avec lequel il y a une collision? Alors, il faut prendre ces décisions. Je pense que personne n'aimerait entrer en collision avec une voiture. Si on n'aimerait pas entrer dans une voiture, sachant que cette voiture prendrait des décisions à notre place, c'est encore la réticence. Des assistants vocaux, vous avez aussi tous des smartphones, comme je disais tout à l'heure, vous avez tous vu l'évolution des smartphones et cela va se poursuivre. De plus en plus, nos smartphones seront nos assistants, fonctionneront de mieux en mieux, sauront qui nous sommes, ce que nous voulons. Vous êtes tous venus ici, peut-être que pour trouver votre chemin, vous avez utilisé le GPS, peut-être que le téléphone dans votre agenda vous a notifié, n'oubliez pas, à 6 heures du matin, vous devrez être à l'aéroport, etc. Et donc, les smartphones, bien sûr, peuvent nous permettre de tirer des bénéfices. Les chatbots, ce sont des robots de conversation. Ce sont des systèmes automatisés qui arrivent à donner des réponses. Ce sont des assistants personnels. Ce sont les CTPO, Mr. Data. Ce sont des applications qui dialoguent avec nous. Les institutions ont besoin d'avoir cela. C'est une façon de s'approcher des personnes. C'est une façon d'être proche du citoyen pour les bureaux administratifs, notamment. La créativité. Je pense que vous avez peut-être vu déjà cet exemple quelque part. Ce sont des applications très simples. À partir d'une photo, nous pouvons ensuite, on soumet une photo et ensuite notre photo est transformée selon, par exemple, des schémas de grands peintres, de grands maîtres, etc. Cela est créé par l'intelligence artificielle. Donc nous avons maintenant le deep learning, c'est l'apprentissage profond. Cela permet aux machines d'apprendre. Tous nos robots sont programmés. Et donc, ils utilisent cette technologie qui a été déjà développée, déjà en Égypte, en ancienne Égypte. Il faut qu'il y ait des règles. S'il y a cette chose, cela a une conséquence. Et donc, la représentation des connaissances structurées est apparue pour la première fois en Égypte. Et donc, avant, nous disions aux machines quoi faire. Et quand on leur disait que faire, on contrôlait les machines parce qu'on savait exactement ce qui devait se passer. Mais ces machines, maintenant, ne seront plus programmées de cette façon. On apprend à ces machines comment apprendre. On leur enseigne à apprendre comme nous le faisons tous. à travers des expériences. Et on finit par identifier des schémas. Un bon exemple de cela, par exemple, vous prenez un texte. Le texte écrit, tel qu'écrit par un écrivain. Ensuite, un texte écrit par vos enfants, par exemple, en utilisant le langage des SMS. Et quel est le plus facile à lire? Eh bien, bien sûr, ce sera le texte simplifié, qui utilise un langage simplifié. Pourquoi? Parce que nous ne lisons pas tout. Nous détectons des schémas. Et à travers ces schémas, on arrive à comprendre. Et c'est ce que font ces machines. Ces machines détectent des schémas et peuvent apprendre. N'importe quel jeu arrive à comprendre la stratégie derrière le jeu et arrive à apprendre de cette façon. Donc, si on veut, on pourrait avoir une voiture même qui arrive à apprendre. Cela voudra dire que la voiture va apprendre à prendre ses décisions à travers les schémas répétitifs. Et le danger, c'est que nous ne contrôlons plus ces voitures. Nous vivons à l'ère numérique. Ça, c'est indéniable. Comment est-ce qu'on se relie au monde réel? Imaginez cette vieille femme qui est perdue dans toute cette technologie. Mais c'est ça notre réalité de nos jours. Et cela, bien sûr, pose de nouveaux défis. En réalité, et très souvent, ce qu'on fait, c'est numériser des processus anciens. Skype, LinkedIn, etc. C'est notre nouvelle réalité. Nous créons un nouveau monde sur les épaules du monde ancien. Et il faut comprendre cela, il faut en profiter, parce que ce n'est pas tout qui était ancien, qui était mauvais ou qui n'était pas bien. Il faut tirer profit de cette nouvelle opportunité. La première chose que l'on doit comprendre, c'est que nous n'en sommes plus à l'époque où nous électrifions tout. En fait, nous ne faisons que relier tous ces points au réseau. Nous donnons une capacité décisionnelle à tous ces points, à tous ces éléments du réseau. Parce que ces points ont maintenant la capacité de traiter l'information et de décider avec ou sans limite. Et ce sera ça aussi le défi. Mais ils décideront. Un senseur, par exemple, si le senseur détecte un mouvement ou s'il détecte un feu, pourra éventuellement appeler automatiquement les pompiers. La décision nous incombe. Votre téléviseur pourra prendre des décisions. C'est un saut technologique immense dans l'humanité. Cela va nous donner, de façon individuelle comme collectif, une augmentation de nos capacités. Mais il faut que l'on en soit conscient. Il faut que l'on ait aussi la capacité de comprendre et d'appréhender tout cela et de tirer profit, mais aussi, bien sûr, de limiter les effets néfastes de toute cette nouvelle technologie. L'intelligence artificielle, pendant 50 ans, en fait, avait pour objectif de réduire l'erreur humaine. C'était des techniques qui servaient à trouver des solutions pour contrer l'erreur humaine. En fait, on essayait toujours de trouver des meilleures solutions. Maintenant, on a déjà fait cela. Maintenant, nous en sommes à l'étape suivante. Ce que nous faisons, c'est maintenant de rendre nos systèmes plus humains. Ces machines traitent l'information et ce qu'on veut atteindre, c'est que ces machines interagissent de façon naturelle avec nous. Si on veut vaincre et gagner dans ce nouveau monde, il faut que l'on comprenne, et ça c'est un problème. De nombreuses personnes ne comprennent pas qu'aujourd'hui, il faut comprendre notre monde, comprendre cette nouvelle réalité, ce nouveau contexte, et il faut qu'on sache agir. Pendant des siècles et des siècles, on se tournait vers les sciences sociales pour essayer de comprendre notre plan prochain, pour essayer de comprendre d'autres cultures, pour essayer de comprendre les personnes avec qui nous interagissons. Maintenant, nous devons faire autre chose, nous devons créer une autre science, nous devons essayer de comprendre la science numérique pour essayer de voir comment est-ce que ces machines et ces robots vont interagir avec nous, parce qu'ils le font déjà. Le problème, c'est que nous ne comprenons pas nécessairement cette interaction. Si nous interagissons avec une entité virtuelle, nous pourrons en tirer un meilleur parti, parce que cela pourra contribuer à améliorer, par exemple, notre qualité de vie en tant qu'humain. Il faut que l'on puisse aider ces machines, ces robots, à corriger leurs interactions. Il faut aussi maintenant penser numérique et sur une note plus personnelle. Mon plus grand fils a 18 ans, il est entré à l'université, il est allé à la meilleure université du Portugal, celle de Coimbra, et il étudie les sciences informatiques. Alors qu'est-ce qui se passe? Il va au cours, mais savez-vous qu'est-ce que j'ai découvert? Il n'est pas dans les cours pour apprendre, il va au cours juste pour prendre note de ce qui se dit. Et ensuite, il va sur Internet pour chercher des vidéos, il va sur YouTube, il va chercher des documents. Il prend note, en fait, du programme et des éléments mentionnés par le prof et il fait sa propre recherche. Les jeunes d'aujourd'hui apprennent par eux-mêmes. Ils arrivent à trouver des cours d'autres professeurs sur YouTube et ils arrivent à apprendre beaucoup plus à travers Internet que pendant la classe physiquement. En étant en présence du professeur. Au Portugal, avec la collaboration d'une fondation extraordinaire, c'est la fondation Calouste de Gulbenkian. J'ai eu le privilège de participer à un projet. C'était de créer un programme de bourse pour les nouveaux talents dans le domaine de l'intelligence artificielle. Eh bien, il y avait une caractéristique qu'on voulait faire ressortir dans ce projet. On voulait donner l'opportunité à des jeunes qui n'avaient jamais vu l'intelligence artificielle, qui n'avait jamais interagi avec celle-ci. Et pour l'instant, les programmes d'université, en fait, introduisent l'intelligence artificielle seulement vers la fin, au niveau du master. La moitié des élèves, et je parle des meilleurs élèves du Portugal, des meilleurs universitaires qui veulent étudier le génie informatique, eh bien, la moitié de ces élèves avaient déjà eu des cours d'intelligence artificielle, mais savez-vous où? Pas à l'université, mais à travers Internet. Et donc, l'intelligence artificielle peut jouer un rôle fondamental dans l'éducation universitaire, parce que ça pourrait être cet élément qui permettra aux professeurs, s'il s'agit d'un tuteur virtuel intelligent, cette entité pourra donner des cours spécialisés et personnalisé pour chaque élève. Et c'est à cette nouvelle réalité qu'on doit s'adapter. Comment est-ce que tous ces outils pourront aider à donner une valeur ajoutée, particulièrement dans les pays qui ont les ressources financières pour avoir tout cela, pourrait effectivement être important. Il pourrait aussi y avoir des structures intelligentes telles que des robots, et d'autres choses. Et aussi, il s'agit de données agrégées. Par exemple, vous avez peut-être déjà vu, ici, c'est un dashboard, et cela vous me montrera le niveau d'attention de chaque élève. Et je pourrai voir qui ne fait pas attention, et je cliquerai là-dessus, je vois. C'est Dr. Marguerite qui ne se concentre pas maintenant à ma présentation.
Nous avons déjà développé ceci dans mon groupe. Dans mon groupe, par exemple, ayant comme base la façon comment vous agissez dans vos smartphones, je serai tout... C'est tout à fait normal d'utiliser ceci. Et je vous explique pourquoi. Comment est-ce qu'on dit d'habitude? On n'a qu'une demi-heure, on n'a que 10 minutes. Mais il y a du stress. Pourquoi? Pour augmenter le stress. Voici l'intelligence artificielle. Ceci est déjà possible. Et on voici un exemple. Vous tous, vous connaissez bien le sujet de l'éducation, donc je ne vais pas rentrer dans le détail sur ceci. Maintenant, encore deux commentaires pour ce qui est quelques initiatives qui ont lieu déjà et qu'il faut répliquer. Ce qu'il faut modifier, la façon comment présenter les phases fondamentales de l'éducation. On ne peut pas faire des cours comme je fais maintenant avec un PowerPoint à peine. Non, il nous faut de nouveaux outils. Il ne suffisent pas les nouveaux outils pour les maths qui aident, mais plutôt pour aider les enfants, les jeunes, leur présenter des vidéos dans leur langue même. Bien sûr, après avoir appris l'ABC des premières initiatives pour écrire et lire, mais passer tout de suite à des textes, des outils qui nous aident à comprendre comment écrire, comment le corriger, comment faire usage d'un vocabulaire spécifique. Ceci, on l'appelle l'analyse émotionnelle des textes. Les nouvelles façons de pouvoir attirer de nouveaux publics, des personnes vers des sciences déjà anciennes, rénover, reformuler, tel qu'on a eu les sciences sociales. Maintenant, il nous faut aussi poursuivre dans le domaine de la pensée digitale. Au Portugal, et voici la réalité que je connais, il y a des exemples dans des écoles où lorsque tout au début, on apprend aux enfants de faire la programmation de Lego. Je ne veux pas faire la publicité de Lego, mais pour vous montrer un exemple, comment comprendre la pensée digitale, l'introduction d'un nouveau concept avec de nouvelles nouveaux vêtements, comme si utiliser un exemple, une image de maintenant j'ai comme base le travail entrepris par madame Manon, qui a invité un groupe d'experts portugais pour pouvoir discuter ceci d'une façon plus globale. On vous parle d'un monde qui est différent, un monde où la science est différente. Il n'y a pas d'Einstein maintenant, parce que la science maintenant, elle ne peut pas se faire toute seule. À Cambridge, je travaillais avec des collègues nous travaillons à titre de dans un domaine de collaboration, dans un système de collaborer, parce qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas penser tout seul. Il faut penser ensemble. Par exemple, pour préparer pas un site internet à peine, mais tout un ensemble de projets qui doit être partagé. Nos enfants n'iront pas travailler dans des entreprises, mais plutôt dans des projets. Donc, les outils que nous développons ici, ce sont des outils qui peuvent et doivent augmenter la capacité de performance du système. Il me semble que on a trop exagéré en faisant la prévision du fond de la fin du monde. La fin du monde, c'est plutôt le travail. Il y avait des gens qui, il y a toujours des gens qui n'aiment pas le travail, mais le travail lui-même, en tant que tâche à accomplir, va se réduire. J'aimais pas, par exemple, des activités si difficiles telles que nos ancêtres qui travaillaient les champs. mais à l'heure actuelle, le travail est un processus différent. Par exemple, l'usine de Volkswagen au Portugal, Auto Europe, ou en Chine, au Japon, chez vous, elles ont de nouveaux systèmes. La réalité a été modifiée. Mais il faut des capacités pour rénover. Nous, scientifiques, les scientifiques, nous ne sommes pas heureux s'il n'y a pas de rénovation. Donc, il faut créer une réglementation sur le progrès à faire et la rénovation. On peut rénover d'une façon rapide, mais l'intégration doit être faite d'une façon plus progressive. Maintenant, pour ce qui est la technologie, elle connaît de grands progrès partout au monde. La prévision, la météo est différente à l'heure actuelle. Le fait de prévoir un tsunami est beaucoup plus facile qu'il y a 10 ans auparavant. Pour ce qui est des ressources de pétrole, il est assez facile de faire le calcul sur la quantité de l'énergie éolienne qui est produite ici au Portugal. L'EDP, notre entreprise de qui fournit l'énergie, elle peut faire ce calcul d'un moment à l'autre très rapidement. Et aussi pour le charbon, les réserves de charbon, tout est facile. Mais il nous faut surtout nous mettre d'accord sur la façon comment nous servir des nouvelles technologies. Et c'est à vous de le faire et pas nous les scientifiques. Étant donné que l'enjeu pour les prochaines décennies à venir est assez difficile, car la technologie elle seule, toute seule, ne peut pas résoudre toutes les situations. Et en réalité, nos pays sont face à un risque, le risque de perdre le train. Il y a les trains, des trains avec première classe, deuxième classe, etc. Moi, j'aime voyager en première classe. Et si nous ne montons pas à bord du train le moment même, alors nous serons condamnés à ne pas voyager en première classe et à voyager en deuxième classe pour toute la vie. Et moi, je voudrais que la région de la Méditerranée voyage en première classe en ce train et pas en deuxième. Moi, merci pour votre attention. Merci. Maintenant, nous allons débattre, discuter, mais je répète, si vous souhaitez prendre un petit café ou manger un sandwich, vous êtes à l'aise de le faire ici à côté, sur cette table. Il y a sûrement des demandes d'intervention des collègues sur cette présentation. Je vous passe la parole. Je voudrais profiter pour vous dire ou plutôt pour vous présenter un enjeu. Au point de vue de nos activités, il s'agit de la développement durable de la région de la Méditerranée. Et ce développement durable de la région de la Méditerranée, tel qu'on a dit ici déjà, a trait pas seulement à l'économie qui est importante, d'accord, mais il y a des questions sociales, l'éducation. Pour ce qui est la société, les questions sociales, ce qui nous préoccupe, Nous avons même reçu de Turquie des recommandations dont je vous ferai part dans un moment pour ce qui est les réfugiés et le soutien aux réfugiés et aux immigrants. Pour ce qui est l'accès à la santé, l'accès aux ressources humaines, notamment des questions qui se présentent dans nos régions, qui ont trait notamment à l'eau. Ce que le professeur Paulo vient de dire, j'ai noté tout d'abord comment faire usage de la technologie de la meilleure façon. Comment nous servir la technologie? Nous sommes parlementaires, nous tous. Et comment nous pouvons, et voici un des objectifs de cette séance ici aujourd'hui, c'est plutôt pour réfléchir comment faire usage de la technologie et en tenant compte du développement durable, où il doit avoir l'intégration sociale pour améliorer les conditions de nos sociétés, de la santé. Nous savons que la technologie dans le domaine de la santé peut aboutir à des résultats presque à des miracles. Vous avez également parlé de l'éducation, le nouveau paradigme où il y a un enseignement de masse qui doit passer vers un enseignement adapté à la personne. Vous avez aussi parlé des nouvelles possibilités pour prévoir les catastrophes, les tsunamis. Il y a aussi d'autres défis à notre société face à la pollution, les désastres écologique. Et vous avez également parlé, ou plutôt souligné qu'on ne peut pas, à l'heure actuelle, penser d'une façon individuelle. Et lorsque des scientifiques comme le professeur Novage, avec la société civile, les responsables politiques et la société d'une façon générale et les parlementaires, comment nous pouvons tous réfléchir ensemble. Il y a également la question du stress injecté et comment on peut le faire pour aboutir à des progrès dans le domaine social, dans la région de la Méditerranée notamment, et je sais que fait le suivi de plusieurs projets de caractère social, si vous pouvez également nous en parler à ce niveau. Il y a aussi un autre aspect qui est important, qui a trait aux langues. Je trouve que le fait de défendre nos langues est essentiel. Nous pouvons, si on pense que les traducteurs et les interprètes peuvent le remplacer, ce n'est pas le cas, car la mise en valeur est très importante, la mise en valeur de nos langues de maternelle. Maintenant, je passe la parole au professeur Paulo Novage pour nous parler d'un ou deux projets et le forum est à vous de participer. Merci. L'intelligence artificielle, la technologie, pour ce qui est de cette question. Et voilà le domaine dans lequel je travaille. On ne peut pas le présenter comme un scénario trop optimiste. Mais j'aime considérer toujours au point de vue positif ces questions. Et ce que je trouve, c'est surtout qu'on doit bien faire l'usage des technologies pour gérer la richesse et les meilleures conditions de vie pour nos citoyens et pour nous tous, étant donné que nous appartenons à tout un ensemble de la société. Pour l'avenir et pour ce qui est la technologie, je dirais que nous sommes engagés. Moi-même, je participe à un projet très intéressant qui met la disposition des technologies aux moyens de vie assistés. Et dans les pays de la Méditerranée, nous avons des collègues de l'Italie, de la Turquie, de l'Espagne et du Portugal, mais également du Nord, de l'Europe du Nord. Et nous étudions comment la technologie peut briser des barrières l'architecture ou culturelles, des barrières différentes. Par exemple, la traduction automatique des langues nous permet d'aller plus vite, mais le plus important, c'est de pouvoir parler avec les gens et les regarder les yeux dans les yeux. Et on ne peut pas le faire que par la collaboration. Voici un projet très important et Madame Margherita a déjà participé à un projet de ce genre. Et il y en a d'autres dans le domaine de la santé qui sont très importants. Il y a même la fusion de robots qui se développe, qui aide les gens à, par exemple, faire la gym chaque matin. Des robots qui interagissent avec les gens, mais il y a même plusieurs personnes qui sont dans cette situation. Voilà plusieurs solutions à notre disposition et dans notre monde. Un jour, il nous faut quelque chose lié à ce qui est humain, car nous tout seuls, nous n'arrivons pas à faire tout seul plusieurs tâches lorsque nous sommes plus âgés. Par exemple, moi je suis mariée à une infirmière et je m'attends peut-être un jour qu'elle puisse me soigner, mais peut-être aussi un jour elle aura besoin de quelqu'un pour la soigner. Comment la technologie peut jouer un rôle très important et proactif. Très sincèrement, en ce moment, il y a une autre réalité qui me préoccupe. C'est la réalité des changements du climat. J'ai récemment pu discuter ceci avec le professeur Carlo Gomes qui travaille aux États-Unis sur les modèles qui reproduisent ces situations. Il nous faut savoir d'une façon proactive où jusqu'où on peut poursuivre, comment introduire des modifications dans notre vie, dans notre société, pour pouvoir poursuivre dans cet environnement fantastique de notre planète. Autrement, nous serons comme des habitants de Mars, de planète Mars. Merci. J'aimerais vous demander s'il y a des demandes d'intervention. Je passe maintenant la parole au sénateur d'Algérie, Benzaïn. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à tous. Je voudrais vous saluer et vous remercier l'État portugais et le Parlement du Portugal pour nous accorder cette possibilité. Je suis sénateur d'Algérie. J'ai une question pour le professeur Paulo. Pour ce qui est la technologie et la différence entre les pays du tiers-monde et les pays plus développés, est-ce qu'ils possèdent la même technologie qu'on utilise dans les deux mondes différents, les États-Unis et l'Europe, par exemple, et les pays d'Afrique? Est-ce qu'il y a le même langage? C'est la question. Mais le problème de la technologie dans les pays développés, c'est qu'ils accompagnent les infrastructures, mais dans le tiers monde, dans les pays moins développés, il n'y a pas de structure. Maintenant, un exemple. Le développement technologique et financier. Acheter et vendre est différent dans les pays moins développés. Comment comparer les nouvelles technologies? Et également dans le domaine de la médecine, la technologie est différente dans les pays plus développés. On peut bien profiter de toutes ces possibilités, mais dans les pays en développement, ce n'est pas le cas. Alors, il est vraiment une priorité de pouvoir comparer les deux mondes différents. La vie en France ou au Portugal est différente par rapport aux pays d'Afrique, aux pays de Golfe. Et vous avez parlé de la quantité d'informations disponibles, mais ceci également, ça dépend des pays, comment en faire usage. On a parlé de l'intelligence artificielle. Il y a de l'intelligence artificielle dans ces pays en développement, dans les pays d'Afrique, par rapport, par exemple, à un autre pays comme le Japon, il y a de grosses différences. Chaque technologie devrait correspondre au pays, aux conditions spécifiques de chaque pays. Merci. Merci. Je passe la parole au sénateur Chinchoua d'Algérie. Louisa Chachoua. Merci. Obrigado.
Merci, Madame la Présidente.
Comme l'a fait mon collègue, tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation et je vous remercie aussi pour l'accueil que vous nous réservez. Et au passage, bien sûr, je vous signale que mon collègue et moi, nous, comme vous le constatez, nous assistons pour la première fois dans cette rencontre et nous sommes très honorés. Et c'est la raison pour ce que nous avons remplacé des collègues qui étaient en fin de mandat. J'espère que dans l'avenir, nous allons nous imprégner, etc., et pouvoir être dans le sujet. Moi, la question que je suis très intéressée par la conférence du professeur Paolo Noves concernant l'intelligence artificielle et le monde numérique. C'est vrai que c'est une question qui actuelle bouleverse pratiquement tout le monde, très intéressante. Ce monde du numérique et de l'intelligence artificielle a révolutionné notre façon de travailler, notre façon de faire, notre façon d'exercer, aussi bien dans l'économie, dans l'éducation, comme il l'a si bien développé, dans le domaine de la santé aussi. Dans le domaine de la santé, il a abordé quelques aspects. Je voudrais apporter aussi, parce que je suis médecin, je suis professeur en médecine, et donc ça nous intéresse beaucoup, et on est en train de voir comment justement profiter de ces données et comment aussi préserver préserver aussi l'être humain de toutes ces des dangers, parce qu'il y a des avantages et aussi les dangers de toute cette intelligence artificielle. Par exemple, le côté positif et le côté intéressant, c'est que bien sûr dans certains domaines, par exemple dans certains diagnostics, l'intelligence artificielle le fait mieux que l'être humain. Dans le domaine de l'imagerie, dans certaines pathologies, surtout le cancer, on a remarqué que les diagnostics sont faits d'une manière beaucoup plus fine que l'être humain. Et parfois aussi, c'est ce qui nous permet de traiter bien sûr certaines pathologies. Aussi, mais bien sûr, il y a par la force des choses d'autres métiers qui vont disparaître, d'autres qui vont réapparaître. Bien sûr, il y a dans le domaine de l'imagerie, par exemple, on est en train de faire des prévisions pour dire que dans l'avenir, beaucoup de gens vont se retrouver pratiquement en train de rien faire, malgré qu'ils ont fait des études pendant de très très longues années. Le côté, par exemple, aussi, protection des données de l'être humain. Par exemple, vous savez qu'actuellement, tout ce qui est en vogue, c'est le test ADN. Je fais un test ADN. Si, par exemple, nous, on fait un test ADN ici dans cette église, je vais trouver des cousins, par exemple, parmi les gens qui sont autour de cette table, je vais trouver des grands-parents. C'est le côté positif et magnifique de ce côté. Par contre, le côté un petit peu, c'est ces big data, ces laboratoires qui vont peut-être monnayer. Je suis jeune, mon test ADN prévoit que je vais faire, moi je suis pas jeune, mais quelqu'un de plus jeune que moi dit que je vais faire un cancer du sein à l'âge de 40 ans, vous savez, et je vais demander à une banque de me prêter de l'argent pour faire un projet. Là, il y a, donc nous, en tant que parlementaires, il faudrait justement que nous trouvions des moyens pour pouvoir justement autant profiter de cette révolution du monde numérique et du monde artificiel, et en même temps aussi comment préserver l'être humain et comment le protéger. C'est une question que je voudrais partager avec tous les gens autour de la table, et merci.
Merci beaucoup. Muito obrigado. E passa a palavra.
Merci. Maintenant, je passe la parole à Madame la vice-présidente. Madame
Yemen Ben Mohamed.
Maintenant, je passe la parole. Je change de langue, madame, vers l'arabe. Il y a vraiment une grosse différence entre le nord et le sud. Pas seulement la rive nord et la rive sud de la Méditerranée, mais aussi par rapport à des pays d'arabes. En Tunisie, il y a également le nord et le sud, à l'intérieur du pays lui-même. Et il y a également les différences technologiques qui ont lieu dans ces pays. Au sud, le développement est toujours différent par rapport au nord. On a parlé de l'éducation, de nouvelles technologies, les hôpitaux, la banque, mais en Tunisie, il y a un problème assez difficile. Au nord de la Tunisie, il y a du progrès. Il y a vraiment un gros progrès, mais il y a aussi des impasses, mais nous introduisons les nouvelles technologies dans les universités, dans les écoles. Mais au sud de la Tunisie, il y a les problèmes de manque d'infrastructures et les élèves dans les universités, dans les écoles, dans le sud de la Tunisie, ils ont des problèmes. Ils ne possèdent pas des ordinateurs dans les universités du sud de la Tunisie. Ceci a lieu également dans d'autres pays, l'Union de la Méditerranée. Et il faut vraiment résoudre cette différence qui existe entre le nord et le sud à l'intérieur de chaque pays et pas seulement entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée. On a parlé du chômage, le problème du marché, du travail, des hôpitaux, des institutions pour la santé dans les pays en développement, également dans les banques. C'est toujours plus facile au nord qu'au sud. En Tunisie, ceci est une réalité également, cette différence. Il faudrait que l'Assemblée de la Méditerranée puisse stimuler les pays à mettre en place ces nouvelles technologies. Et si on veut réduire cette différence entre le nord et le sud, nous devons nous mettre à une technologie plus rapide dans nos pays. Et pour résoudre cette impasse, cette différence, ce décalage, il faut également adopter les recommandations de la Commission et de l'Assemblée du Parlement pour réduire ces lacunes. Cette présentation qui a été faite par le professeur Paulo est très intéressante pour nous montrer comment le monde est en évolution. Mais si on considère la réalité même, au sud, il y a des problèmes pour ce qui est le manque d'infrastructures qui n'est pas adéquate aux réalités. Et les étudiants ou les jeunes trouvent des difficultés pour ce qui est d'entrer à l'école. Comment se rendre à l'école et s'il y a des difficultés, des distances, et également pour ce qui est l'accès à l'étude universitaire. Et ceci est très important de réduire ces lacunes.
Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, je vais vous donner la parole maintenant au député Sonnello d'Italie. Bonjour à tous. J'ai écouté ce que vous disiez. D'après moi, si on pense aux connaissances, à l'avenir, on pense à des écrivains tels que Orwell, un avenir totalitaire. Mais je préfère Isaac Asimov, où les robots ne tuent pas ni l'homme ni la technologie, mais plutôt créent de l'emploi. Je crois que cela dépend de la manière dont on va utiliser la technologie. L'intelligence artificielle n'est pas un danger, il s'agit peut-être plutôt d'une question d'éthique. Est-ce qu'il est correct d'humaniser ces robots ou devrait-on maintenir les robots sous une autre forme? Mais j'écoutais aussi Ayman Ben Mohamed quand il parlait des différences entre les territoires, différents territoires de même pays. Je crois que, dans une certaine mesure, c'est un peu la même chose en Italie. Il y a des différences non seulement entre le nord et le sud, mais surtout entre le centre et les zones périphériques. Et ce que je peux dire, c'est que la technologie peut créer de nouvelles infrastructures, bon marché, par exemple. Une université dans une zone pauvre a été créée il y a 10 ans ou 15 ans. Et de nouveaux emplois ont été créés à partir de cela. Parce qu'en Italie, on avait tendance à assister les zones pauvres. On leur donnait de l'argent. On pensait que ce sera comme les zones urbaines, créer des usines pour le secteur automobile, etc. Mais on oubliait les vraies ressources. Et d'autres conseils aussi, monsieur, je ne me souviens pas de votre nom, Paolo, montrait un smartphone tout à l'heure. Et les smartphones, aujourd'hui, sont très bon marché. Nous avons donc des appareils bon marché et donc des infrastructures aussi peu chères. Et je vais vous donner un autre exemple sur vos territoires. Il y a un partenariat qui, en fait, ramasse les capitaux européens. Ils sont basés maintenant à Londres. Ils vont déménager à Dubaï. Ils investissent en Afrique, en Asie, en Chine, particulièrement dans un secteur destiné aux populations pauvres. Et donc, ce sont des nouvelles infrastructures qui peuvent aider beaucoup. C'est une technologie qui n'est pas polluante. Et il y a des preuves qui montrent que les emplois verts, l'économie verte, créent de nombreux emplois. Et je suis persuadée que nous pouvons donner une valeur à cette grande diversité que l'on retrouve en Afrique, dans les pays arabes, ainsi que dans la région méditerranéenne, et que l'on peut capitaliser tout cela à travers des technologies vertes. Et je dis aussi, c'est ma perspective en tant que comptable agréé, je suis un homme de finance, le fait d'investir 100 euros dans les zones périphériques, par exemple en Tunisie, est beaucoup plus rentable que d'investir 100 euros dans ma ville à Milan, où quelqu'un peut dépenser 1000 euros en une heure. Je crois qu'on doit être optimiste et je pense aussi qu'on doit amasser les connaissances. Par exemple, ces plateformes de connaissances. Et pour revenir, par exemple, il y a une petite structure de micro-région qui a été créée par l'Union européenne qui s'appelle la macro-région alpine. Ce n'est pas une structure très lourde, mais l'Italie du Nord, l'Autriche, l'Allemagne du Sud, le sud de la France, tous ces pays, tous ces territoires qui couvrent la zone alpine et qui sont connectés aux Alpes, communiquent entre eux, partagent leurs difficultés par rapport aux infrastructures, parce que il s'agit de hautes montagnes dans ces régions. Et ils ont créé une base de données qui fait l'inventaire de tous les centres de recherche situés dans ces zones alpines, dont les petites compagnies peuvent avoir accès aux logiciels, à ces technologies. Ce n'est pas gratuit, mais c'est très bon marché. Donc, il ne faut pas investir nécessairement des millions d'euros pour faire votre propre recherche et vous pouvez partager ces connaissances. Et je crois qu'on doit commencer là. On doit commencer à partir de la culture plutôt qu'à travers l'assistance financière. Et cela va venir. Et je vais finir ici avec une pensée. La crise en Italie, d'après moi, est dû au fait qu'on a oublié d'être italien. Mes grands-parents étaient de petits entrepreneurs et en fait, c'était des entreprises qui travaillaient grâce aux membres de la famille qui y étaient employés. Et c'est ça qui fonctionnait. Ferrari, bien sûr, Ferrari, par exemple. Oui. Et mon père a été embauché par IBM dans les années 80 et j'ai aussi travaillé pour IBM pendant un an. Et on s'est dit, on devra voir, soit il faut travailler pour le gouvernement, soit pour une grande multinationale. Et on a oublié nos capacités d'artisan, etc. Ma femme est libanaise, elle est venue en Italie pour apprendre la mode, pour coudre des sacs, mais on n'a pas trouvé de professeur, donc on a dû recourir à un homme de 73 ans qui cousait des sacs à main pour Sardi à l'époque et pour Hermès. Donc en ce qui concerne les connaissances, je crois qu'on peut tirer profit de nos connaissances et il faut préserver ces connaissances pour l'avenir. Merci beaucoup, je vais passer la parole à Rosin Diaz, José Ramón Diaz d'Espagne. Bonjour, tout d'abord, comme d'habitude, chère Marguerite, chère Margarida, c'est mon deuxième chez moi parce qu'on vient tellement souvent ici à Lisbonne et comme d'habitude, votre hospitalité est vraiment en fait le point lumineux de ces rencontres. Alors j'aimerais féliciter le professeur Noaz pour votre discours parce que non seulement vous avez parlé d'aspects intéressants, mais avec toutes ces photos et ces liens que vous avez établis avec ces films, cela nous a vraiment fait réfléchir à tous ces éléments. Et je veux dire aussi, parce que j'ai dû résoudre certains problèmes et j'ai fait comme vous, j'ai utilisé la technologie. Alors j'aimerais partager certaines réflexions. On a dans ce comité, c'est un comité d'affaires financières, économiques, sociales aussi, d'éducation. Ce sont des sujets importants à débattre. Mais pour moi, l'aspect clé de ce comité, c'est l'éducation, la question de l'éducation. Parce que si nous avons l'éducation, eh bien, le reste des questions, telles que l'aspect financier, social, je ne dis pas qu'elles seront automatiquement résolues, mais en tout cas facilitées, et on les voit à partir de notre perspective. Je disais toujours que la connaissance, ce qui est le plus important par rapport à la connaissance, c'est d'avoir la connaissance de la connaissance, parce que non seulement cela montre ce que signifie le monde, ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez... si vous mettez de l'importance dans l'éducation, eh bien, vous verrez que les affaires sociales, financières, économiques, vous allez les percevoir sous une autre perspective. Et il ne sera plus besoin d'expliquer de quoi il s'agit. Et je pense que dans nos pays, même s'ils sont différents, nous avons quand même de nombreuses similitudes et nous devons parler de ces questions. Parfois, je dis que l'éducation, c'est beaucoup plus qu'un mot. Et on parle toujours, partout à travers le monde, de l'éducation. Mais je crois qu'on doit vraiment arriver à l'essence de cette notion. Je crois qu'on a une bonne opportunité ici pour en parler. Et j'apprécierais aussi beaucoup s'il était possible que ces présentations et ces photos que vous nous avez montrées, est-ce que ce serait possible de les comparer avec d'autres et de les voir? Parce que c'était très intéressant. Et pour terminer, nous avons parlé de Isaac Asimov. Je voulais rappeler maintenant un autre film, L'Odyssée de l'espace. C'est l'image où ça a été filmé, oui, par Stanley Kubrick en 1968. Et il imaginait l'avenir, il pensait au futur. Et si vous vous souvenez du film, on voit l'astronaute qui marche très lentement dans la galaxie. Et plus tard, vous voyez les singes sur Terre. Et plus rapide, mais ces singes marchaient plus rapidement que l'astronaute. Ce n'est pas encore arrivé. mais nous avons cette image. On ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais en tout cas, on a cette image de ce film. Entre autres, et je crois que finalement, professeur, félicitations encore une fois pour votre présentation. Ça a été un plaisir de vous entendre et d'avoir aussi une autre perspective par rapport à la nouvelle technologie. Merci. Merci, Ramon. Je vais maintenant passer la parole au député Brahimi. Mustapha. Merci, merci. Et je salue Dieu. Voici, j'ai votre discours, votre présentation m'a beaucoup intéressé. J'aimerais ajouter que tout ce qui est dit est une suite à ce qui a été dit auparavant. Nous parlons du même objectif à atteindre. Moi, je viens d'un pays du Sud et voici mes préoccupations, je partage les mêmes. Voici une question pour Monsieur Novaj. Notre rôle ici, dans l'Assemblée, va dans le sens de pouvoir dans nos institutions à agir auprès de nos gouvernements et faire un lobby afin que les décalages entre le Nord et le Sud puissent se réduire, tel que ma collègue de Tunisie vient de le dire. L'Amazon, le Facebook, ce sont des multinationales qui ont déjà des procès. Et l'Europe possède des outils que nous, dans les pays du Sud, nous ne possédons pas. Ces outils ne sont pas les mêmes, on n'a pas le même intérêt pour tous les pays. Il nous faut agir afin que ces outils puissent être utiles pour tous, et également pour les pays du Sud. Une autre question. Nous devons tous travailler pour l'éducation, la santé, pour trouver des postes de travail pour tous. Mais il nous faut également faire des économies pour ce qui est la richesse. Et il y a une réalité dans le domaine de la révolution morale. Une question pour le professeur. Quelles sont les limites les révolutions, ce qui est à peine pour les personnes au point de vue de la société de l'information, ou est-ce que tous peut être connus par la privacité des gens est menacée? Nous devons bâtir, construire, cerner les limites de cette privacité face à la technologie industrielle. Et également, comment mieux profiter de ces avancées des progrès technologiques pour ne pas tomber dans des pièges. Merci.
Muito obrigada. Eu não estava a ver o nome, mas agora já estou aqui. Lachehab, o senador do...
O senador do Maroc, Lachenat. Vous avez la parole. Lachehab. Monsieur Abdelaziz. Bonjour, je remercie Monsieur Paolo pour son discours ou sa présentation si intéressante sur l'intelligence artificielle. Il s'agit en fait d'un sujet d'une importance extrême, une importance tout à fait à l'ordre du jour. Mais voici la question, les risques. Pourquoi des risques, des dangers de l'intelligence artificielle, étant donné que l'intelligence artificielle va faire réduire des postes de travail, elle aura un reflet direct sur les lacunes entre le Nord et le Sud. Et également, l'intelligence artificielle va enrichir les riches et faire de façon à ce que les pauvres s'appauvrissent encore davantage. Voici un décalage énorme. Et dans nos parlements, nous agissons pour justement réduire ces décalages et ces lacunes. Et l'intelligence artificielle va contribuer pour ces différences et pour augmenter l'émigration. Nous avons signé récemment la convention de Marrakech. Alors, la question est la suivante. Comment est-ce que l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée peut faire des recommandations dans ce domaine et mieux profiter de cette intelligence artificielle pour la coopération et pour réduire les problèmes qui existent entre les lacunes, entre le Nord et le Sud? Merci. Je passe la parole maintenant à M. Samil de la Turquie. Merci
pour ces informations très importantes. Si ça va avec vous, je vais faire ma présentation et ensuite je partagerai mes idées par rapport à l'intelligence artificielle. Chers collègues, c'est un plaisir pour moi de partager à cette réunion du comité aujourd'hui. J'ai l'honneur de vous informer que j'ai récemment pris mes fonctions auprès de la délégation de l'UPM en Turquie. Je suis content de faire partie de cette assemblée distinguée. Je profite de l'occasion pour exprimer le point de vue de la Turquie en ce qui concerne la coopération internationale ainsi que la contribution de la Turquie que j'aimerais maintenant résumer. La Turquie est un pays méditerranéen en raison de sa position géographique, en raison aussi de son héritage culturel. En plus d'avoir participé à l'histoire longue de la zone méditerranéenne, la Turquie a une longue histoire et étant donné ses réalités, la Turquie a contribué de façon importante à tous les partenariats avec l'UPM montrent le soutien continu que la Turquie montre à ses partenariats. Nous passons par des temps troubles. En plus de la réponse à des défis récurrents tels que par exemple le terrorisme, la migration, la crise, le chômage des jeunes, nous pensons qu'il est crucial de soutenir les pays du pourtour méditerranéen afin que l'on puisse atteindre les objectifs de développement durable. Nous sommes aussi de la partie pour relever ces défis, pour trouver des solutions appropriées afin de faire en sorte que la région méditerranéenne devienne lieu de paix et de prospérité. Comment est-ce que nous allons faire pour résoudre nos problèmes aujourd'hui? Eh bien, nous avons aussi des problèmes et des points de vue, des idées par rapport à l'avenir. Mesdames et messieurs, en tant qu'institut important, l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée a effectué de nombreuses activités dans toutes sortes de domaines sociaux, politiques, économiques, a joué un rôle important et constructif dans ces domaines, a augmenté la visibilité, la transparence du partenariat euro-méditerranéen. Et je crois que maintenant, nous allons atteindre les objectifs. Cette année, nous allons célébrer le 10e anniversaire de la fondation de l'Union pour la Méditerranée. Et bien sûr, l'Union pour la Méditerranée en tant qu'organisation, nous devons travailler plus que jamais pour pouvoir avoir le pouvoir politique dont l'Europe a besoin dans ces temps difficiles. Il est urgent. Nous devons établir une vision conjointe pour la région euro-méditerranéenne qui inclut le fait que les régions doivent être libérées de xénophobie, d'islamophobie, ainsi que de l'instabilité économique. La Turquie, comme vous le savez, a occupé la présidence et occupera la présidence entre 2019-2021. Et je crois que cela sera une opportunité pour que l'on puisse poursuivre ce dialogue parlementaire et diplomatique entre les nouveaux membres et pour apporter de nouvelles opportunités. Afin que l'on puisse réussir, nous devons assurer une meilleure communication. On doit aussi assurer une meilleure coopération au niveau global, régional. Et finalement, nous avons décidé l'établissement d'un secrétariat du Parlement que nous considérons comme étant une grande opportunité pour pouvoir développer davantage notre dialogue interparlementaire et ce, d'une façon plus structurée. J'aimerais aussi souligner le fait que la Turquie est prête à fournir l'assistance nécessaire à l'UPM et j'aimerais aussi dire à l'Assemblée et à ces comités j'aimerais remercier aussi le travail effectué au cours des dernières années et j'aimerais réitérer le fort engagement de la Turquie envers cette organisation pour une meilleure coopération et une meilleure collaboration. Merci pour votre attention. Et avant de venir ici, nous étions à Strasbourg. Malheureusement, nous avons été témoins de cet attentat 20 minutes après que nous soyons passés, 20 minutes avant que nous soyons passés sur cette place, le terroriste a attaqué. Nous étions ensemble avec mes collègues. Nous sommes très tristes par rapport à cet événement. Comme vous le savez, la Turquie lutte depuis 20 ans, 40 ans, avec un régime difficile. Et dans notre assemblée, je crois que le terrorisme doit faire l'objet vraiment d'une lutte. On doit lutter contre ce phénomène, c'est très important. Si on ne réussit pas ici, je parle vraiment très franchement, chaque jour, partout à travers le monde, en raison du terrorisme, de nombreux innocents sont tués. Nous devons être vigilants par rapport à ce phénomène. C'est une question très importante dans nos pays, en Europe, partout à travers le monde, des innocents sont morts dans le centre de l'Europe, à Strasbourg. c'est arrivé. Et donc, à l'avenir, on doit vraiment collaborer de façon étroite sur cette question. Merci pour votre attention. Et maintenant, j'aimerais vous parler de cette question. En ce qui concerne la numérisation et l'intelligence artificielle qui a été mentionnée, on peut communiquer avec nous ainsi qu'avec d'autres systèmes. Donc, nous avons des systèmes autonomes, des systèmes de communication ainsi que les applications. Ceux-ci vont bénéficier, vont nous bénéficier au cours de notre vie quotidienne. L'intelligence artificielle permet l'analyse et l'interprétation de grandes quantités de données provenant de différentes sources, et cela de façon optimale. L'intelligence artificielle et ses applications proposent des solutions qui auront un rôle très important dans les années à venir, au cours des 10 prochaines années. La numérisation, par exemple, dans le domaine de la manufacture, va permettre de réduire les coûts de fabrication, va permettre aussi, par contre, d'augmenter la productivité, et 85% d'augmentation de production, et va permettre aussi de réduire les coûts liés à l'ingénierie de conception, pour la conception des produits, et la flexibilité aussi sera améliorée. Nous verrons aussi, par exemple, une augmentation de la rapidité, d'une efficacité. Il y aura aussi plus d'efficacité, une intégration plus efficace au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Particulièrement en Europe centrale, la contribution technique des PME et l'aide de ces technologies seront très utiles parce qu'on va, comme je l'ai dit, augmenter la productivité, réduire les coûts. Et dans ce contexte, il y a le premier centre de formation PME qui s'appelle Model Factory, Fabrique Model, qui a ouvert à Ankara en décembre. Et peut-être qu'une mission, en fait, cela pourrait devenir une espèce de hub, un centre d'information et de développement numérique pour la zone méditerranéenne. En plus de cela, des solutions numériques simples doivent être également développées pour les PME, pour les entreprises, pour permettre aussi l'innovation. Des plateformes d'innovation doivent être aussi créées. L'un des principaux obstacles à la transformation numérique inclut les capacités de numérisation des PME. Et aussi, l'un des obstacles, c'est le bas niveau de alphabétisation informatique. Et je crois que pour cela, on devrait établir davantage de centres de formation pour que l'on puisse mieux tirer parti de ces technologies numériques et que pour que l'on puisse aussi former la main-d'œuvre à ces nouvelles technologies. La transformation numérique, telle que par exemple la robotique, ainsi que d'autres plateformes qui opèrent au sein des pays membres de l'Union européenne, produisent beaucoup de grandes données, le big data, et il y a les métadonnées et aussi les objets connectés, l'Internet des objets. Tout cela vont contribuer à l'économie. Les acteurs ont aussi augmenté leurs investissements. Mais, par exemple, de nombreux investissements sont effectués dans les pays asiatiques en raison des coûts et la numérisation joue un rôle plus ou plus important. Dans ce contexte, les investissements directs étrangers envers les pays de l'Union européenne, et pour les membres de l'UPM vont accélérer cette transformation totale de l'écosystème de production partout dans la région méditerranéenne. Et donc, il y aura une infrastructure de production qui va changer. Mais il s'agit ici de l'une des options les plus importantes de notre époque en termes d'investissement direct. Le futur de l'industrie sera basé sur une infrastructure juridique, technique, physique. Et dans ce contexte, la coopération et l'information, l'échange d'informations, ces mécanismes d'échange d'informations doivent être établis au sein des pays membres de l'Union pour la Méditerranée afin de créer une infrastructure qui soit efficace. Et ces technologies digitales clés sont importantes et permettront d'intégrer, il faudra les intégrer dans cet écosystème de production, dans les activités de recherche, de connaissances, et tout cela devrait être effectué avec l'industrie, avec les universités, etc. Il est important d'augmenter la coopération dans le domaine de la collaboration entre l'industrie et les universités, ainsi que les pays membres de l'Union pour la Méditerranée. Il serait aussi utile d'établir des connaissances ainsi que des bonnes pratiques, des mécanismes de bonnes pratiques, ainsi que des programmes d'échange de travail entre les pays membres de l'Union pour la Méditerranée afin de pouvoir rendre que ces effets négatifs soient minimisés. Ces effets négatifs qui sont parfois ressentis au niveau de l'emploi. Merci beaucoup pour votre attention. C'est moi qui vous remercie. Je vais maintenant passer la parole au représentant du Maroc. Voilà. Monsieur, la parole est à vous. Baraki Soubaï.
Bonjour, merci. Et je voudrais remercier Madame la Présidente pour son accueil et j'aimerais remercier Monsieur Paolo pour sa présentation excellente. Présentation et qui nous a présenté des aspects positifs pour ce qui est la technologie actuelle. Mais Madame la Présidente, je ne vais pas répéter ce que mes collègues viennent de dire, mais d'après les suggestions présentées, la technologie ne sont pas trop concernés pour ce qui est les aspects humains. La technologie présente des aspects très positifs, mais nos suggestions à l'intérieur de notre comité pour l'avenir vont dans le sens de reconnaître les progrès dans l'éducation, la culture de la démocratie. Et pour cela, il nous faut trouver un échange, interchange d'expériences dans la région la Méditerranée, pour ce qui est également l'aspect financier de l'investissement, l'aspect fiscal, pour l'emploi des jeunes, le fait de parler de la coopération économique,
des rives de la Méditerranée, ce sont des aspects qu'il faut également considérer. Si Dieu le permet, lors des prochaines réunions, nous allons poursuivre sûrement sur cette voie. Je remercie la représentante de Tunisie lorsqu'elle vient de souligner les décalages et les lacunes qui existent au point de vue de l'éducation. Et je remercie le gouvernement pour ce qui est le budget pour cette année-ci, qui accorde des budgets pour la santé, pour l'éducation, ce qui est positif. Nous souhaitons également cette coopération parmi tous les pays de la Méditerranée. Merci. Merci et je passe la parole au député de l'Algérie, Salim Oxine Damen. Merci, chers collègues. Et je vous souhaite un très bon succès de notre Assemblée. Il y a eu des réunions importantes, beaucoup de travail entrepris, notamment la lutte contre le terrorisme et l'éducation qui est la base même. L'éducation est très, très importante. Et voilà un sujet qui doit être partagé par tous. Au point de vue de l'éducation, au point de vue de la société, il nous faut rappeler la situation en Algérie. Non, lutter contre les rançons exigées. Et nous subissons les conséquences de toutes ces difficultés, mais pas par l'intelligence artificielle, par la technologie, par le développement social, pour aboutir à une bonne gestion au point de vue politique, économique, tous ensemble. Ce sont des aspects que nous devons tous partager dans la région de la Méditerranée. Il y a également des décisions prises par des pays qui sont plus puissants, mais et qui font subir les conséquences sur d'autres pays. Mais nous partageons des préoccupations communes et notre assemblée dans le domaine de la politique, de l'intelligence, la sécurité. Je trouve que nous allons d'une façon très ralentie pour résoudre ces problèmes et résoudre les lacunes entre le Nord et le Sud. Il y a l'immigration, il y a le crime organisé. Auquel nous faisons face. Il nous faut également utiliser la technologie au service de la réduction de ces problèmes. et nous devons considérer la personne, ce qui est humain, comme prioritaire. Car la technologie ne sert à rien que si elle ne sert pas le domaine de l'éducation, de la santé, le bien-être des gens, d'où nos recommandations vont dans ce sens. Et également, il nous faut agir afin qu'il y ait des résultats de caractère pratique chez les gens, chez les peuples. Mais il nous faut sortir d'ici avec des solutions, des résolutions qui puissent avoir un reflet pratique chez nos populations. Merci, Madame la Présidente. Dans la prochaine réunion, nous aurons davantage de recommandations, mais également des résultats positifs qui découlent de ces recommandations. Merci.
Muito obrigado a todos.
Merci beaucoup à tous. Moi, je ne sais pas si le professeur, si monsieur le professeur, vous désirez dire encore quelque chose. Vous, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de répondre à tout parce que les questions sont bien sûr complexes. Ce sont des questions que nous avons tous. Mais si vous désirez vous exprimer, ensuite, moi-même, je dirai aussi quelques mots par rapport à ce qui a été dit. Alors, juste rapidement, j'interviens maintenant, pas en tant que président, mais je veux juste vous dire que je suis au Parlement depuis 3 ans et d'après mes expériences ici au Parlement, en ce qui concerne l'Assemblée parlementaire de l'UPM et en ce qui concerne une visite parlementaire dans un autre État membre, par exemple en Allemagne, où je suis allée, j'ai eu 2 expériences qui m'ont marquée et qui ont à voir avec ce qu'on vient justement de parler. L'une de ces expériences a été une visite que j'ai faite au Maroc, à l'Assemblée parlementaire, pour voir le projet de l'Université méditerranéenne, l'Université Euro-Méditerranéenne. Et là, je connais beaucoup d'universités à travers le monde parce que je suis professeur d'université. Donc, par le Parlement, je suis passée par plusieurs universités. J'étais très impressionnée par ce projet. Et lorsque l'on parle des différences, qui sont bien sûr très claires entre le nord, le sud, le centre versus la périphérie, mais l'université euro-méditerranéenne est un bon exemple de la manière dont il est possible de outrepasser ces fossés. Et ce qui m'a impressionné, c'était de voir dans le domaine de l'impression en 3D, qui est maintenant le plus avancé en termes de robotique, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Je n'en avais jamais vu autant dans un si petit espace. Ça m'a vraiment marqué. Le Maroc m'a marqué avec, bien sûr, le projet de l'UPM. C'était un exemple de la manière dont il est possible de passer outre certaines différences et de créer une université qui soit à la fine pointe dans le domaine de l'impression 3D. Ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Un autre exemple, c'était l'opportunité que j'ai eue. Je suis allée à visiter 2 camps de réfugiés, un en Grèce, l'autre en Allemagne, dans des conditions très différentes. Mais ce qui m'a impressionnée en Allemagne, ça a été un ancien aéroport qui a été transformé en camp de réfugiés. Donc c'était là où étaient les réfugiés, même 2 ans après la première crise. En Grèce, c'était une autre situation. Mais ce qui m'a impressionné, c'était qu'il y avait en fait vraiment un lien entre ces personnes, entre ces réfugiés, et ce point commun, cette relation, ce lien, était la technologie. Les personnes étaient sans emploi, mais tous avaient un téléphone qui leur permettait d'être en contact avec la famille à la maison. Et l'idée, en fait, que j'ai vue aussi en Grèce, parce que je suis allée en Allemagne, ils étaient déjà là depuis un an et demi, les réfugiés. En Grèce, ils venaient d'arriver avec des problèmes beaucoup plus pressants. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces personnes, ce qui les rassurait, c'était d'avoir accès à la technologie. C'était leur lien. Et aussi, c'était aussi peut-être la meilleure façon que nous avons aussi pour leur proposer un emploi, pour leur proposer de l'aide, même si nous ne considérons pas la technologie nécessairement de cette façon ou sous cet angle. Je voulais souligner cette expérience parce que les deux expériences ont été très importantes, l'un plus au niveau humain et l'autre plus au niveau du défi de passer outre des frontières. Et j'ai jugé important de partager cela avec vous parce que souvent, on le sent, on parle des infrastructures, mais je dirais que il y a des moments où, en fait, l'infrastructure est aussi simple et se réduit à la technologie. Et je vais maintenant, sans plus tarder, passer la parole à mon collègue. Bonjour. Encore une fois, j'aimerais remercier les paroles qui m'ont été dirigées. C'est toujours un honneur d'entendre les restitutions de ces personnes. On a parlé d'Isaac Asimov et je me suis souvenu d'une expression. Si la connaissance peut créer des problèmes, et nous savons que oui, c'est le cas, les connaissances peuvent créer des problèmes, mais l'ignorance ne pourra jamais résoudre de problèmes et n'a jamais rien résolu. Donc, j'aimerais dire encore deux, trois réflexions qui valent ce qu'elles valent, mais c'est mon expérience. Cette semaine, j'ai passé toute la semaine à Cambridge. J'ai participé à un événement sur l'intelligence artificielle. Qui a gagné le meilleur prix de la meilleure présentation a été une scientifique brillante d'Arabie Saoudite. Celui qui a gagné le deuxième prix, paper technical, technical paper, donc papier technique, ça a été un jeune de l'Inde. Dans le public, il y avait des étudiants au doctorat africains, en particulier de l'Angola. Je dis curieusement, parce que pour moi, ça a été plus facile de communiquer avec eux, puisque c'est un pays lusophone. Je pense qu'on oublie parfois que le monde change. Et il y a deux choses. La science est quelque chose qui est facile à transmettre si on le veut bien. Les technologies dont on vient de parler ne doivent pas être nécessairement ça peut être simplement un téléphone, ce n'est pas nécessairement autre chose, même si on considère parfois le téléphone comme étant un gadget. Je me souviens toujours qu'il y a quelques années, j'étais en Angola, très près du rio Zaïre, de la rivière Zaïre, et j'ai reçu un email à travers mon téléphone. Auparavant, je n'aurais jamais cru que cela serait possible. Et c'est pour cela que les barrières pourront être surpassées. Et on doit comprendre une chose. L'avenir, la richesse numéro un, à l'avenir, la richesse numéro un de pays sera sa connaissance. Mais pour que cette connaissance ait une valeur, ça ne peut pas être comme le Coca-Cola ou les hamburgers, c'est-à-dire on ne peut pas normaliser tout cela. Ce que je veux dire, c'est que nous tous ne pourrons pas tous manger le même hamburger, boire le même Coca-Cola. Ce qui va donner la valeur sera la culture que l'on créera à partir de ces connaissances. Il faut que cela soit utile pour les collègues d'Algérie, pour les collègues, pour nous-mêmes, pour les collègues de la Turquie, etc. Et c'est ça qui est important. Pour cela, la troisième réflexion, l'an prochain au Maroc, il y aura une conférence sur Intelligent Environment, sur les environnements intelligents. Et c'est aussi une bonne opportunité pour que le pays s'intègre aussi à cette communauté. Et ce sera au Maroc. La ville où cela se déroulera, c'est sûrement une très belle ville, une ville fantastique, mais c'est aussi parce que localement, il y a déjà des compétences. Il y a aussi des personnes au Maroc qui parlent de ces sujets, qui se préoccupent de ces connaissances. Et c'est ça en premier lieu que je voulais vous partager. Et moi, si je pouvais vraiment dire qu'une chose est importante, c'est la connaissance. Je crois qu'on peut parier sur la connaissance parce que les connaissances créent d'autres connaissances. Et c'est le nouveau pétrole. La connaissance est le pétrole des siècles à venir. Mais pour ne pas courir le risque d'être tous pareils, bien sûr, les distances entre le nord et le sud, les différences entre le nord et le sud risquent d'augmenter, mais je crois que les technologies tiendront compte des spécificités de chaque peuple et cela faire en sorte que, par exemple, le Maroc serait quand même le meilleur pays pour boire un thé, les thés fantastiques que vous avez. En Espagne, il y a aussi une autre boisson que nos frères peuvent nous offrir aussi. Et vraiment, franchement, je crois que c'est ça la voie à suivre. Et juste pour conclure, j'aimerais vous remercier. Ce n'est pas tous les jours que j'ai le bonheur d'apprendre autant qu'aujourd'hui. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais vous remercier également, vraiment, du plus profond de mon cœur et très sincèrement. J'aimerais remercier vos réflexions et tout ce que vous avez dit parce que je reconnais que ce sujet est un sujet qui n'est pas facile, c'est un sujet qui est là en même temps, mais en même temps il est loin, il se trouve à l'avenir, et en fait la manière dont on l'a abordé et les interventions ont été d'une grande générosité. Oui, nous savons que les contextes culturels, les réalités nationales sont différentes, mais ça a été d'une ouverture et d'une générosité que j'aimerais vraiment remercier à tous. Et je le fais vraiment d'une façon très sincère. Je dirais que j'ai pris certaines notes. Et bien sûr, j'essaierai de faire peut-être pas une synthèse. C'est pas une synthèse que nous voulons. Mais pour que l'Assemblée générale puisse avoir quelque chose de cela. Je crois qu'il y a ici des idées clés qui, dans le contexte de cette réunion, sont des idées qui semblent récurrentes et qui devraient être enregistrées et qui réaffirment. Je pensais notamment aux propositions qui nous ont été soumises, mais je ne vais pas nommer maintenant la Turquie, l'Algérie, je ne vais pas nommer les pays qui ont contribué, l'Espagne, etc., la Bulgarie, l'Italie, juste pour la Tunisie, bien sûr. Je ne veux pas nommer les pays, mais il y a deux idées qui sont ressorties. L'une d'entre elles, ce sont des idées qui ont été reprises, des sujets tels que l'importance des réfugiés et des migrants, la question des migrations, de l'importance qu'ils jouent dans la région méditerranéenne. Il faut que tout ce mouvement soit durable, et aussi la question du terrorisme qui est une question aussi très importante dans la présidence antérieure de la Turquie, où la question du terrorisme et de la lutte contre le terrorisme est vraiment une préoccupation. Une question aussi qui est récurrente et qui a été soulignée par de nombreux membres, c'est la question de l'éducation. L'éducation comme outil, il s'agit bien sûr plus qu'un simple mot, l'éducation qui est une capacité transformatrice. Ça a à voir avec les connaissances, mais ça a à voir aussi avec les comportements, l'attitude, le sentiment de paix, finalement, qui est notre objectif ultime. Il s'agit de développer la paix dans la zone euro-méditerranéenne. Et je dirais donc que ces aspects sont récurrents et doivent être toujours à notre esprit, indépendamment de la technologie. Bien sûr que les technologies peuvent y contribuer. Alors, de tout ce que nous avons entendu, il me semble aussi qu'il y a une question, qu'il y a une question importante qui ressort, c'est l'idée que nos parlements respectifs doivent trouver des moyens de profiter de l'intelligence artificielle ainsi que des nouvelles technologies qui sont toujours des outils, ce ne sont pas des fins en soi, mais plutôt des outils, et on doit en profiter pour préserver justement l'être humain et pour préserver la paix. Et c'est dans ce sens que beaucoup de ce qui a été dit a à voir avec le fait que les politiques euro-méditerranéennes doivent aller dans le sens de d'éradiquer les clivages entre le nord et le sud et entre le centre et la périphérie. Et donc la technologie doit être au service de ces objectifs. On doit adapter la technologie qui puisse aider d'une façon plus simple à éliminer ces différences. Je vous donne l'exemple de cette université parce que, comme je l'ai dit, j'ai vu beaucoup d'universités dans ma vie, et cette université marocaine était vraiment particulière parce que cela montrait la vision de ce qui semblait important à l'avenir. Souvent, on ne se focalise pas sur des aspects qui sont différenciateurs. Il y a aussi une autre question importante qui a été abordée sous plusieurs formes. Il s'agit des infrastructures, l'importance des infrastructures et comment est-ce que nous pouvons souffrir de leur inexistence et comment est-ce qu'on doit poursuivre des politiques pour nous permettre de mettre la technologie, encore une fois, au service aussi des infrastructures. Ici, le point de vue technologique est important, ainsi que la question de l'économie verte et les emplois verts. Il s'agit clairement d'une question qui est très importante. Ce que je pense qu'il faut souligner, c'est que la connaissance est différenciatrice. Et donc, nous, la région de l'Europe et de la Méditerranée, nous parions vraiment sur les connaissances, sur les politiques des connaissances. Cela crée des liens, cela permet de rapprocher les extrêmes et permet de créer un espace collaboratif tel qu'on l'a vu ici. La présentation du professeur, personne ne pense tout seul, personne n'arrive à atteindre le succès tout seul. Il faut travailler en collaboration, en coopération, et c'est exactement ce que nous faisons nous ici aujourd'hui. Nous favorisons la connaissance au service de la paix, au service aussi de la valorisation de la personne. Je vais essayer de terminer de façon très succincte. On n'a pas demandé de recommandations concrètes. Je vais essayer systématiser, structurer tout ce qui a été dit en 5 ou 6 recommandations. Et ensuite, je ferai circuler ce document par email et je vous demanderai de me donner vos impressions, des restitutions, pour me donner vos impressions, vos points de vue. Et ensuite, on pourra envoyer cela à l'Assemblée parlementaire pour qu'on puisse l'envoyer à l'avance. Alors, si vous êtes d'accord, l'élaboration de ce document reste entre nos mains. L'élaboration de peut-être 2, 3, ou en tout cas maximum 6 recommandations pour ne pas qu'il soit réduit. Je ne sais pas si les autres commissions en feront également. Alors, je vous remercie beaucoup et je pense que nous sommes au moment opportun pour passer à la prochaine étape. Et la phase suivante, je la cherche ici sur l'ordre du jour. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons vous montrer un petit peu ce palais, qui est un palais magnifique. Et nous allons commencer par prendre une photo de groupe, ici à l'extérieur, dans les escaliers, dans un espace intérieur, mais qui est beau. Donc, on va faire un petit tour du bâtiment. On va déjeuner aussi dans une zone, un édifice qui appartient au Parlement. C'est un édifice qui fait partie du Parlement, et ensuite on fera notre visite au musée national de l'Azulejo. En fait, c'est le musée national de la céramique. C'est un événement social et c'est, bien sûr, vous êtes tous invités, vous ceux qui êtes ici présents ainsi que vos accompagnateurs. J'aimerais m'excuser parce que j'aurais aimé être avec vous jusqu'à la fin. Moi, je ne suis pas de Lisbonne, je viens de Coimbra. C'est pour ça que le professeur qui a parlé tout à l'heure de cette université de Coimbra, nous avons un petit peu une compétition entre nos universités. Mais en tout cas, j'ai en fait un engagement officiel parlementaire dans mon district à Coimbra. Je ne peux pas rater cette réunion et c'est prévu pour l'après-midi, ce qui veut dire que j'irai jusqu'au musée national de la céramique avec vous. Je vous accompagnerai jusque-là, mais je ne ferai pas moi-même la visite. Ce n'est vraiment pas par mauvaise éducation ou manque de considération, c'est parce que vraiment je dois me rendre à Coimbra pour être à l'heure à cette réunion. Je n'arrive pas malheureusement encore à me téléporter. Nous n'en sommes pas encore là malgré les technologies. Donc, de toute façon, nous avons encore un peu de temps pour être ensemble. Et encore une fois, je veux réitérer mes remerciements les plus sincères pour votre présence et votre participation et cette discussion que nous avons eue très ouverte. Merci beaucoup à vous tous.
Thank you. Mm-hmm.